Tout d'abord, je suis très gêné de parler de l'islam aujourd'hui en présence d'un spécialiste de l'islam, justement comme le père Lelong. Mais je le prie de m'excuser s'il trouve des inexactitudes donc dans ce que je vais dire. Et avant de parler de l'œcuménisme avec l'islam, eh bien, je tracerai tout d'abord à grands traits les rapports qui ont existé entre la religion de Mahomet et celle du Christ. Et pour cela, il est nécessaire d'avoir à l'esprit la manière dont les adeptes de l'islam conçoivent leur religion et ce qu'ils pensent des chrétiens. Les fausses voies sur lesquelles on est aujourd'hui engagé viennent en grande partie, en plus de présupposés doctrinaux faux dont on a déjà parlé, d'un défaut d'appréciation de l'islam où l'on feint de trouver maintes ressemblances avec le christianisme alors que celles-ci ne sont au fond en général que purement apparentes. Alors tout d'abord, une première partie, l'islam et les chrétiens. Ce n'est pas un exposé de théologie musulmane et donc ce sera un court résumé. Tout d'abord, la profession de foi musulmane, on l'appelle en arabe la shahada, définit d'emblée le musulman et le place tout de suite en opposition avec les chrétiens. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet est l'envoyé d'Allah. Le père Rifan connaît la phrase « La ilaha illallah » et la traduction c'est « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Et donc, il suffit de professer cette formule pour être musulman. Même si le musulman ne pratique pas et n'observe pas les prescriptions coraniques, il demeure persuadé que Dieu existe, qu'il est unique et que nous le connaissons par Mahomet. Cette profession de foi lui ouvrira à la fin de sa vie les portes du paradis. Par contre, sans cette foi au Dieu unique et à son envoyé Mahomet, le croyant, même monothéiste, est en principe voué au feu de l'enfer. Alors certains voient dans la profession de foi musulmane, du moins dans le monothéisme des musulmans, un point de départ pour le dialogue, mais la chose est très relative. Selon Mahomet, écrivait un musulman cette année, c'était en Allemagne, « Le mot Allah ne peut être traduit par le mot Dieu », disait-il. « Allah est le nom de la divinité tel que la conçoivent les musulmans » et il faut traduire la shahada par « il n'y a de divinité qu'Allah » et non pas « il n'y a de divinité, il n'y a pas de Dieu en dehors de Dieu ». Même si, semble-t-il, ce fut le sens primitif de la formule, car les chrétiens de langue arabe disent « Allah pour Dieu » et appellent la Marie la mère de Dieu, « Allah la mère de Dieu ». Et donc le mot « Allah » certainement au départ avait le sens de Dieu, mais pour beaucoup de musulmans, je ne dis pas tous, ce concept Allah ne peut pas être traduit par le mot Dieu, parce que Allah c'est Allah et nous, on a une autre idée de Dieu que les musulmans. Aussi, en dépit des déclarations du pape aux musulmans, il est donc clair que nous n'adorons pas le même Dieu, car Allah est un Dieu anti-trinitaire. Tout récemment, un livre qui vient de paraître du père Moussali, c'est un prêtre lazariste qui est libanais et qui a vécu en Algérie avant de venir en France. Eh bien, il dit ceci, il explique que renferme cette négation-affirmation, car la profession de foi musulmane commence par une négation. Il n'y a pas d'autre divinité que Allah. Que renferme cette négation-affirmation? Le refus du polythéisme, sans doute. Le refus trinitaire, bien davantage. La négation de la Trinité, présentée comme un trithéisme dans le Coran, est en effet explicite. Celui-ci accuse en effet les chrétiens d'adorer Dieu, Marie et Jésus. On entend dans le Coran interpeller Jésus assez vivement en ces termes « Est-ce toi, Jésus, fils de Marie, qui a dit aux hommes « Prenez-moi avec ma mère comme Dieu en plus de Dieu ?» Et donc cette profession de foi musulmane est encore plus qu'anti-polythéiste, anti-trinitaire. C'est en tout cas la pratique des musulmans, en général, tels qu'ils le conçoivent. Alors, quels sont les rapports qui découlent de cette profession de foi entre l'islam et les autres religions. Il faut savoir que ces rapports sont fixés une fois pour toutes, car pour le musulman, tout est déjà inscrit à ce sujet dans le Coran. Le Coran est un livre divin et incréé qui est descendu, dont les versets sont descendus du ciel, ont été révélés à Mahomet, et le Coran est donné une fois pour toutes. Et c'est pour cela que, tout comme chez les juifs, il n'y a pas vraiment à proprement parler dans l'islam de théologie, il y a seulement une exégèse des versets du Coran. On dit que les musulmans reconnaissent Jésus-Christ comme prophète. C'est vrai, mais en réalité, le prophétisme de l'islam est réduit à un seul message, celui de Mahomet, croyez en Dieu et en son envoyé, Mahomet, et croyez au jugement. Les prophètes, ou ceux que le Coran qualifie de tels, comme Noé, Abraham, Moïse, Jésus, sont en fait des modèles de musulmans. Mahomet, le dernier des prophètes, c'est le sceau des prophètes pour l'islam, et d'où, aux yeux des musulmans, la supériorité de l'islam sur les religions antérieures. Il est intéressant d'ailleurs à ce propos de noter que les musulmans qui accusent les chrétiens d'avoir falsifié l'évangile essaient de trouver dans l'évangile une annonce de Mahomet. C'est l'interprétation qui a été faite par Ibn Hisham, 200 ans après Mahomet environ, qui, à propos de ce verset du Coran, interprète donc Mahomet comme étant annoncé dans l'Évangile. Donc je lis ce verset du Coran, c'est la sourate 61. « Jésus, fils de Marie, dit, ô fils d'Israël, je suis en vérité le prophète de Dieu envoyé vers vous pour confirmer ce qui de la Torah existait avant moi, pour vous annoncer la bonne nouvelle d'un prophète qui viendra après moi et dont le nom sera Ahmad. » Alors, Ahmad, cela veut dire en arabe le très glorieux. Et c'est à la racine du nom Muhammad que l'on a transcrit en français par Mahomet. Alors, les musulmans, à la suite de Ibn Hisham, veulent voir là l'annonce que notre Seigneur fit du Paraclet en Saint Jean, chapitre 14, verset 16-17. « Je vous donnerai un autre Paraclet pour être avec vous à jamais. » Car ils disent... Il ne faut pas lire paraclet, paraclétos, mais il faut lire périclutos, c'est-à-dire illustre, glorieux, c'est-à-dire Ahmad, Muhammad. Parce que, ayant écrit, si on écrit le mot paraclitos ou périclitos en arabe, comme il n'y a pas en arabe de voyelle, cela s'écrit de la même manière, avec les mêmes consonnes, et donc ils disent, il ne faut pas dire, il faut lire périclitos. C'est une fausse transcription qui a eu lieu en grec. Ce n'est pas Paraclétos, c'est Périclitos. C'est donc Mohammed qui était annoncé. Enfin, on peut dire ça pour s'amuser. Ça n'a pas beaucoup de... Le texte grec a été écrit bien avant l'an 800. Par ailleurs, les chrétiens et les juifs sont appelés gens du livre parce qu'ils possèdent l'écriture, ce qui, pour autant... ne diminue pas l'appréciation négative et très sévère que les musulmans portent sur eux. Il est là uniquement pour honorer la mémoire de Moïse et de Jésus, en attendant la conversion à l'islam de ceux qui se disent leurs disciples, alors qu'ils possèdent désormais une écriture falsifiée. En fait, ce titre de Jean du Livre sert à la fois à faire entrer l'islam dans la mouvance de ceux qui ont reçu une révélation et en même temps à disqualifier chrétiens et juifs parce qu'ils n'ont pas été fidèles au pacte conclu par Dieu avec les prophètes. Et de là ces déclarations très antichrétiennes que l'on trouve dans le Coran. Alors on en trouve aussi qui sont, semble-t-il, en faveur des chrétiens, mais il est très difficile de savoir comment les interpréter, d'autant qu'il y a dans le Coran des versets qui sont abrogeants et des versets qui sont abrogés, et cela diffère selon les écoles. Alors la sourate 9 dit ceci, « Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier, ceux qui ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son prophète ont déclaré illicite. » Ceux qui parmi les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ne pratiquent pas la vraie religion, combattez-les jusqu'à ce qu'ils paient directement le tribut après s'être humiliés. » Ceci, c'est la condition, de fait, des gens du livre dans les pays islamiques. Ils sont tolérés à condition de, et protégés, entre guillemets, à condition d'être soumis. Les chrétiens ont dit « le Messie est le Fils de Dieu ». Telle est la parole qui sort de leur bouche. Ils répètent ce que les incrédules disaient avant eux, que Dieu les anéantisse. Ils sont tellement stupides. Ils ont pris leur docteur et leur moine, ainsi que le Messie, fils de Marie, comme Seigneur au lieu de Dieu. Mais ils n'ont reçu l'ordre que d'adorer un Dieu unique. Il n'y a de Dieu que lui, gloire à lui, à l'exclusion de ce qu'il lui associe. Et dans la sourate 4, ils ont dit « Oui, nous avons tué le Messie, le Fils, Jésus, le Fils de Marie, le prophète de Dieu. Mais ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Cela leur est seulement paru ainsi. Ils ne l'ont certainement pas tué, mais Dieu l'a élevé vers lui. Dieu est puissant et juste. » Donc, vous voyez ces déclarations antichrétiennes où l'on voit d'ailleurs, comme dans le dernier, une influence des sectes chrétiennes, comme le marcionisme et le docétisme. Alors, ce qu'il faut savoir à propos des musulmans, c'est qu'une grande majorité d'entre eux croient que les chrétiens sont polythéistes. Jésus est un second Dieu, et suivant les cas, la Vierge Marie ou le Saint-Esprit est un troisième Dieu. Et donc, également, ce que le Coran dit des polythéistes peut, le cas échéant, s'appliquer à eux, c'est-à-dire il faut les supprimer s'ils ne veulent pas devenir musulmans. Mais ce n'est pas l'interprétation courante. L'interprétation courante, c'est qu'il faut qu'ils soient soumis, et alors on peut les tolérer. Alors, en conclusion, eh bien, pour conclure cette première partie brève sur ce que les musulmans pensent des chrétiens, je citerai une circulaire distribuée à Cologne, en Allemagne, cette année, par le Centre islamique de Dawa, c'est-à-dire de conversion et d'information. C'est un petit peu long, mais cela donne bien justement le résumé de la doctrine musulmane. Chers concitoyens, je désire par ces lignes vous inviter à devenir musulmans. Et de fait, on a parlé de l'unité de tout le genre humain, mais pour les musulmans, c'est vrai, tout le genre, il y a une unité de tout le genre humain, tous sont appelés à devenir musulmans. Allah est le Dieu un et unique, qui a fait le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Il est le Dieu d'Adam, de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Jésus, de Mahomet et de tous les autres prophètes. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur eux. Selon le Coran, Allah est celui qui pardonne tout et fait miséricorde. Mais la négation d'Allah ne sera pas pardonnée au jour du jugement dernier. Selon le Coran également, ses négateurs et opposants sont promis à une peine terrible, même s'ils ont fait le bien durant leur vie terrestre, car l'infidélité est une très grave faute. Par contre, passer à l'islam est très facile et ne pose aucun problème. Toutefois, il faut vous assurer, pour faire ce pas important et essentiel pour votre vie, que votre décision d'embrasser l'islam est libre de toute contrainte et intérêt terrestre. Car selon le Coran, il ne doit pas y avoir de contrainte en religion. En outre, il faut vous informer pour savoir ce qu'est l'islam et ce qu'Allah attend de nous, les hommes. Il est clair, d'après le Coran, qu'Allah n'engendre pas et n'est pas engendré, et que personne ne lui est égal. Il n'a ni mère, ni fils, ni fille. Jésus, paix soit sur lui, n'est pas, selon le Coran, fils de Dieu, mais prophète, envoyé et fidèle serviteur d'Allah. Dans le Coran, la Trinité et la crucifixion de Jésus-Christ sont niées avec force, car elles sont en opposition avec la toute-puissance d'Allah. Le Coran enseigne que tout homme est responsable pour ses propres actions et que personne ne doit porter les péchés d'autrui. Aussi, l'islam ne connaît pas de péché originel. En islam, il n'y a ni prêtre ni pape. Aussi, vous n'avez pas besoin, pour passer à l'islam et pour demander le pardon de vos péchés, d'aucun intermédiaire. Chacun peut s'adresser tout seul à son Créateur, à tout moment, pour faire sa profession de foi. Il suffit de peu de mots. Les voici, je confesse qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et je confesse que Mahomet est son envoyé. Par cette profession de foi, appelé en arabe « el-shahada », on devient musulman. Tous les péchés passés sont pardonnés à partir de ce moment. L'homme commence ainsi une nouvelle vie, comme s'il venait de renaître. De même, selon une parole du prophète Mahomet, que la bénédiction et la paix de Dieu d'Allah soient sur lui, c'est pas moi qui le dis, le paradis est garanti dans l'autre vie à qui a sincèrement rempli ici-bas les commandements d'Allah. Qu'Allah daigne par sa toute-puissance et sa miséricorde indiquer à tous les hommes son droit chemin et ainsi accomplir sa grâce en eux. Amen. Eh bien voilà, un exposé de la foi musulmane par un musulman de l'essentiel de l'islam qui est par nature conquérant, et nous avons ici l'essentiel de ce qu'il pense de la foi chrétienne, puisque c'est écrit pour des chrétiens, qu'il invite à devenir musulman. Alors maintenant, l'attitude de l'Église face à l'islam. Ce sera un court aperçu un peu historique, tout d'abord, mais très bref. L'attitude de la chrétienté face aux dangers musulmans a d'abord été de se défendre. Repoussés au sud des Pyrénées par Charles Martel, après la bataille de Poitiers, les Mahométans demeurèrent en Espagne, où très tôt commença la reconquête. Ce fut une œuvre de longue haleine, qui a duré 7 siècles, et ne s'acheva donc qu'en 1492 par la prise de Grenade. Les croisades, commencées en 1095, eurent pour but principaux de défendre la chrétienté menacée par l'avancée des hordes de l'islam, de récupérer le tombeau du Christ tombé aux mains des musulmans et d'assurer la sécurité des pèlerins qui se rendaient en Terre Sainte et aussi de venir en aide aux chrétiens d'Orient. Donc ce fut la guerre tout d'abord avec les musulmans. Après la chute des États latins d'Orient, la guerre continua sur la mer et s'étendit dans les Balkans. Les papes Saint-Pie V, avec la victoire de Lépante, et le bienheureux Innocent XI, avec la victoire de Vienne, qui ont arrêté l'extension musulmane en vainquant les Turcs, eh bien, sont à ce titre aussi, en plus de tout ce qu'ils ont fait pour l'Église, de grands défenseurs de la chrétienté. Mais l'Église n'a pas seulement à défendre la foi catholique, elle doit aussi la propager. Or, il est bien évident que ce n'est pas sur un champ de bataille que s'opèrent les conversions, mais c'est généralement en temps de paix, lorsque les âmes sont disposées à recevoir la vérité. Aussi, les batailles doivent avoir pour conséquence de rendre possible l'évangélisation en restaurant la paix. Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, dont l'ordre des bénédictins avait beaucoup contribué à la reconquête de l'Espagne, déplorait alors que rien ne soit fait pour la conversion des Mahométans vivant dans les régions libérées par les Espagnols. Et c'est pourquoi il fit faire à ses frais la première traduction latine du Coran. Il écrivit un résumé de la doctrine musulmane qu'il envoya à Saint Bernard en lui demandant d'en faire une réfutation, comme avaient fait les pères de l'Église, qui avaient combattu les erreurs, même la plus petite, disait-il. Et il ajoutait, il ne s'agit pas ici d'une petite erreur, mais du ramassis de toutes les hérésies qui a déjà envahi les 2/3 de la terre. Trop occupé, Saint Bernard ne répondit pas, et Pierre le Vénérable se mit alors à rédiger lui-même cette réfutation du Coran. Il avait prévu 4 livres, et 2 seulement, qui se trouvent dans la patrologie latine, nous sont parvenus. Probablement, il ne put pas achever le travail projeté. Mais son idée avait fait son chemin, son idée selon laquelle il fallait non seulement connaître la doctrine des musulmans, mais aussi leur langue, afin de pouvoir les évangéliser. Et cette idée fut reprise par saint Raymond de Peignafort, chez les dominicains, par le bienheureux Raymond Lull, chez les franciscains. Et c'est à la demande de ce dernier que le Concile de Vienne, en 1311, demanda que dans toutes les universités soient instaurées des chaires de langue orientale pour l'étude de l'hébreu, du syriaque et de l'arabe. Et dans le même temps, étaient fondés par les dominicains et les franciscains des collèges pour former des missionnaires capables de discuter avec les musulmans et les chrétiens séparés. C'était l'époque des croisades, et à la faveur des États francs d'Orient, les missionnaires furent envoyés au Moyen-Orient. Il y eut aussi des fondations, d'ailleurs, en Afrique du Nord à l'époque. Même si leurs couvents demeurèrent après la contre-offensive musulmane au Moyen-Orient, il ne fut plus possible pour ces religieux dominicains franciscains de travailler à la conversion des musulmans. Et donc ils se contentèrent de travailler à la réunion des chrétientés orientales séparées. Et donc on voit que quasiment rien n'a été fait pour la conversion des musulmans en réalité. Rien n'a pu être fait ou rien n'a été fait. Au XIXe siècle, grâce aux possessions ou protectorats des puissances européennes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, possessions qui mirent fin ou qui aboutirent, qui mirent fin à plusieurs siècles de guerre contre l'islam et qui aboutirent ou furent le résultat de la dislocation de l'Empire turc, il eût été possible, grâce à ces possessions, de travailler efficacement à l'évangélisation de ces pays. Et le cardinal Lavigerie, précisément en Afrique du Nord, se mit à la tâche avec succès, enfin un succès qui fut mitigé d'ailleurs, mais succès qui fut mitigé en grande partie à cause de l'opposition de l'État français qui ne lui a pas donné les subsides dont il aurait eu besoin et qui les lui a retirés en fait au fur et à mesure. Donc le cardinal Lavigerie, dans le but de travailler efficacement à l'évangélisation des musulmans, fonda les Pères Blancs. Mais donc, comme je disais, ce travail devint très difficile en Afrique du Nord, en grande partie à cause de l'opposition du gouvernement français, qui, par exemple, avait obligé, alors que c'était un gouvernement laïque où on n'enseignait plus le catéchisme en France, dans les écoles primaires, eh bien, le gouvernement français à l'époque a obligé en Algérie que l'on enseigne le Coran dans toutes les écoles. Donc les écoles chrétiennes aussi. Alors c'est un père des missionnaires d'Afrique à qui le cardinal Lavigerie avait confié cette tâche, comme c'était obligatoire de le faire, eh bien de choisir dans les textes du Coran les textes qui étaient en faveur, soit en faveur du christianisme, soit qui n'étaient pas contre le christianisme et qui donnaient une doctrine vraie, au moins sur Dieu, qui ne fut pas antichrétienne. Il lui avait confié la tâche de faire ce manuel. Mais c'est un exemple pour montrer comment le gouvernement français a mis le gouvernement laïque à favoriser l'islamisation en fait de l'Afrique du Nord. Donc à ce sujet, il n'y a pas eu encore de travail de conversion des musulmans. Par contre, on a acquis en Occident une meilleure connaissance de la religion des musulmans. Et les études qui furent faites sur le Coran et l'islam se sont développées alors dans deux directions. L'une conforme à la vision de l'Église, et qui fut celle, par exemple, du cardinal Lavigerie et du père de Foucault, et de voir dans l'islam, comme disait Pierre le Vénérable, un piège diabolique qui consiste à dire de notre Seigneur Jésus-Christ tout le bien possible, sauf ce qu'il faut croire pour être sauvé, à savoir qu'il est le Fils de Dieu. Je cite ce que disait Pierre, une petite citation de Pierre le Vénérable, « Le but principal de cette hérésie est de faire croire que le Christ Seigneur n'est ni Dieu ni Fils de Dieu, mais que bien qu'il soit grand et aimé de Dieu, il n'est cependant qu'un pur homme, tout en étant un sage et un grand prophète. Arius a été le premier à répandre cette idée, inventée depuis bien longtemps par le diable. Puis ce Satan de Mahomet a pris la relève, et dans le plan du diable, c'est l'Antéchrist qui sera chargé de la faire triompher. Saint Hilaire dit que l'Antéchrist a commencé à exister avec Arius, qui a nié que le Christ soit véritablement fils de Dieu, mais seulement une créature. L'Antéchrist portera cette négation à son comble en affirmant qu'il n'a été en aucune manière Dieu ou fils de Dieu, mais même qu'il n'a pas été un homme de bien. L'impie Mahomet, qui se situe entre les deux, semble bien avoir été prévu et préparé par le diable pour apporter un supplément aux négations d'Arius et être spécialement pour les infidèles une préparation aux choses pires que l'Antéchrist dira. Eh bien, c'est dans ce cadre que l'on peut, je pense, placer les études qui ont été faites sur le Coran et les origines de l'islam par le père Théry, reprises ensuite, perfectionnées par d'autres, en particulier par l'abbé Bertuel. Mais cette thèse, qui n'a pas l'accord des islamologues chrétiens en général, dont certains sont ceux que Peroncel Hugo appelait musulmans de profession, c'est-à-dire faisant le travail de l'islam, cette thèse, semble-t-il, n'a pas été réfutée sérieusement. Se fondant sur la critique interne du Coran, le père Théry est arrivé à la conclusion que la religion musulmane n'est que le judaïsme enseigné aux Arabes. Donc ceci, c'est une chose qui mériterait certainement d'être approfondie et travaillée, mais il est vrai que l'origine du Coran est entourée d'une grande obscurité, et tout ce qui a été dit à son sujet repose sur des légendes forgées bien après la mort de Mahomet. Une autre conception, tout autre d'ailleurs, dont le promoteur chez les catholiques a été Louis Massignon, islamologue renommé, a été de considérer l'islam comme une voie de salut et une préparation au christianisme. Il avait lu les mystiques musulmans et philosophes musulmans comme Al-Hajj et El-Razali et fut émerveillé de ce qu'ils disaient de Dieu. Mais ces sages musulmans, devant lesquels Massignon était en admiration, furent considérés de leur temps, certains du moins, en tout cas à l'âge, comme des hérétiques, il a été brûlé d'ailleurs, comme infidèles à l'islam véritable. C'est donc une vue purement idéaliste de voir en eux des représentants de l'islam. Néanmoins, Massignon a introduit chez les catholiques une lecture du Coran faite à partir de conceptions chrétiennes, interprétant ce livre d'une manière chrétienne quand cela pouvait se faire, et faisant école auprès de la plupart des islamologues catholiques, comme le père Abdeljalil, qui lui-même était un musulman converti, marocain, et Louis Gardet, il a ainsi ouvert la voie à Vatican II et à son appréciation, on ne peut plus, positive de l'islam. Alors parlons maintenant de Vatican II et de l'origine du texte sur l'islam. À l'origine, il n'avait été question au Concile que d'un chapitre sur les Juifs dans le schéma sur l'œcuménisme proposé par le secrétariat pour l'Union des chrétiens. Et c'est en particulier la réaction négative des évêques orientaux catholiques qui, venant des pays arabes, étaient opposés à une telle déclaration qu'il fut décidé de parler aussi des musulmans. Le patriarche melkite catholique, Maximos IV, s'opposa justement à cette déclaration qui ne parlerait que des juifs. On ne voit pas, disait-il, ce que les juifs viennent faire dans l'œcuménisme chrétien et pourquoi on les y a introduits. Ce chapitre doit donc d'urgence être enlevé du schéma des œcuménismaux. Mais il continuait en disant « Si l'on tient à le conserver, il faut l'insérer dans un autre schéma ». C'était plus logique, les Juifs n'avaient rien à faire avec l'œcuménisme qui, par principe, par définition, normalement est entre chrétiens. Il faut l'insérer dans un autre schéma et parler aussi des autres religions non chrétiennes et surtout des musulmans qui sont au nombre de 400 millions et au milieu desquels nous vivons en minorité. Et l'on aboutit alors aux deux textes suivants. Tout d'abord, dans le chapitre 2 de Lumen Gentium, traitant du peuple de Dieu, il est dit « Ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile sont eux aussi ordonnés au peuple de Dieu », comme on a vu ce matin. Et après avoir parlé des Juifs, le texte continue « Mais le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur, en tout premier lieu les musulmans, qui professent avoir la foi d'Abraham. Adore avec nous le Dieu unique miséricordieux, futur juge des hommes au jour dernier. Auparavant, d'ailleurs, dans le schéma, il était dit que les musulmans ont la foi d'Abraham. Et là, cela a été modifié dans un bon sens, peut-on dire, puisqu'il est dit qu'ils professent avoir la foi d'Abraham. On ne dit pas que c'est ce que l'Église pense exactement. Mais c'est surtout dans la déclaration sur les religions non chrétiennes, Nostra Aetate, qu'il faut chercher la pensée du Concile. Après avoir rappelé avec beaucoup de bienveillance, on l'a vu, comment des religions comme l'hindouisme et le bouddhisme essaient de répondre aux questions qui troublent le cœur humain, le Concile ajoute, avec non moins de bienveillance, eh bien, ce qui suit, « L'Église regarde aussi avec estime les musulmans. » Et ici, on peut remarquer, il est question des musulmans. Beaucoup d'islamologues chrétiens ont traduit, ont compris, l'Église regarde aussi avec estime l'islam. Donc l'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme aux décrets de Dieu, même s'ils sont cachés, comme s'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète. Ils honorent sa mère virginale, Marie, et parfois même l'invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement, où Dieu rétribuera tous les hommes ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Si au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le Concile les exhorte tous à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et à promouvoir ensemble pour tous les hommes la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Alors sur ce texte, eh bien, on peut dire ce qui a été dit au sujet du texte sur le bouddhisme, comme quoi ce n'est pas, bien sûr, on ne nie pas qu'il y ait des vérités, mais si ces vérités sont enveloppées dans un tissu d'erreurs et servent à propager cette erreur, eh bien, on ne peut pas les vénérer comme des vérités pures et simples. Un commentateur du Concile, qui a fait des livres sur les religions, le père Gris, dit ceci: « Le Concile a évité de prendre position dans les relations de l'islam avec la tradition biblique. Par contre, cette déclaration essaie de rencontrer la foi musulmane en choisissant parmi les 99 noms divins ceux qui sont conformes au christianisme et qui ont une valeur religieuse primordiale. C'est le cas du nom divin qui a parlé aux hommes. Le Concile n'entendait pas, dit-il, se prononcer sur l'authenticité de la révélation dont se réclame l'islam. Mais c'est pour le moins ambigu. On a l'air de dire que le Concile reconnaît que Dieu a parlé aux hommes par l'islam, puisque les musulmans le reconnaissent ainsi. Et dans le texte récent de la commission théologique, le christianisme et les religions, il est dit de manière moins ambiguë au numéro 93, « Les religions n'ont pas tous des livres sacrés, bien qu'on ne puisse exclure un éclairage divin dans la composition de ces livres. Il est plus adéquat de réserver le qualificatif d'inspiré aux livres canoniques. Les livres sacrés des différentes religions, même quand ils peuvent faire partie d'une préparation évangélique, ne peuvent être considérés comme équivalents à l'Ancien Testament, qui constitue la préparation immédiate à la venue du Christ dans le monde. » Par conséquent, il n'est pas adéquat de parler de livres inspirés, mais il n'est pas exclu qu'il le soit. Alors, on réservera le terme inspiré à nos livres canoniques. Mais il peut y avoir, très certainement, d'après ce texte, un éclairage divin, et ces textes peuvent être une préparation évangélique. Et pour certains islamologues, contemporain des catholiques, eh bien, c'est une préparation évangélique qui vient après l'évangile, mais c'est quand même une préparation évangélique. Enfin, Et c'est ceci, en réalité, toujours dans le sillage de Massignon, qui est cité par tous ces islamologues catholiques comme leur inspirateur, promoteur, la position de nombreux islamologues qui considèrent la religion de Mahomet comme un rameau de la tradition biblique, c'est-à-dire comme une religion réellement issue d'Abraham. Ils pensent que Mahomet a vraiment été inspiré et que le Coran contient de fait une partie de la révélation. Alors on pourrait leur dire que si cela est, la logique devrait les conduire à devenir musulmans, car si Mahomet est le dernier des prophètes, et si Dieu a vraiment parlé par sa bouche, eh bien il n'a plus qu'à devenir musulman. Alors ils ne vont pas jusque-là, normalement, mais d'autres les suivent sur cette voie et sont plus logiques qu'eux. À ce sujet, aujourd'hui, dans l'Église catholique, les islamologues considèrent qu'il y a trois catégories chez les catholiques, trois manières de considérer l'islam. Et le père Anawati, il est décédé récemment, directeur de l'Institut dominicain des études orientales au Caire, voyez chez les islamologues et chrétiens catholiques trois courants, les minimalistes, le courant minimaliste, le courant maximaliste et le troisième qui est la via media. Alors le courant minimaliste, disait-il, est caractérisé par l'incapacité d'estimer à leur juste valeur les vérités et les richesses contenues dans l'islam et sa civilisation. Et caractérisé par une hypercritique des sources musulmanes. Ce courant est surtout préconciliaire, car les déclarations explicites du concile devraient contribuer à le faire disparaître. Alors, bon, c'est peut-être dans ce courant-là que nous sommes, nous, éventuellement, si on s'intéresse à la question. Le courant maximaliste, à l'opposé, admet à des degrés divers le prophétisme de Mahomet et le caractère révélé du Coran, dont on fait une lecture plus ou moins chrétienne. L'islam est alors considéré comme la cause de la croyance en Dieu de millions d'hommes, et Mahomet équivaudrait à un prophète de l'Ancien Testament, quoi qu'il soit dans le Nouveau. Mais il s'agit ici de visions plus poétiques, sans doute historiques, qui risquent d'engager le dialogue dans une voie sans issue, commentent d'autres islamologues. Et dans cette voie maximaliste, eh bien, on peut citer le père Claude Geffrey, jésuite de l'école biblique de Jérusalem, qui tout récemment, dans la revue des sciences philosophiques et théologiques, disait ceci, tout en précisant qu'il n'avait pas l'intention de présenter sa position comme la théologie officielle de l'Église. Il disait ceci en résumé, les chrétiens peuvent recevoir le Coran comme une parole de Dieu qui confirme le monothéisme strict de la confession de foi d'Israël. Il peut exister une parole de Dieu incomplète dans d'autres révélations antérieures ou postérieures à la révélation chrétienne. Ce sont les semences du Verbe dont a parlé Vatican II, et c'est ce qui justifie la nouvelle attitude de l'Église à l'égard des autres religions, attitude faite de respect et d'estime. L'islam, c'est toujours selon son opinion, a par conséquent un lien mystérieux avec l'histoire du salut et se rattache réellement à Abraham, quoique d'une autre manière que les chrétiens. C'était, dit-il, la vision grandiose de Massignon discernant une complémentarité entre les trois religions abrahamiques. Une révélation prophétique, conclut-il, se vérifie à ses fruits. Or, c'est un fait que depuis 14 siècles, le Coran éveille et entretient le sens de l'adoration d'un Dieu unique et personnel chez des millions d'hommes et de femmes. Alors, c'est clair que on est là aux antipodes de la thèse du père Théry, qui montre, au contraire, que l'islam, à son avis, fut le plus grand bluff de l'histoire religieuse. Mais on est sans doute aussi aux antipodes de la foi catholique, car je ne vois pas comment justifier à divers points de vue d'ailleurs cette affirmation. Une révélation qui vient après la révélation et qui est réellement donc cause de salut chez des millions d'hommes. Et alors la via media, c'est, je pense, la voie officielle aujourd'hui dans l'Église, d'après Vatican II, tout en manifestant beaucoup de sympathie et d'ouverture pour l'islam, eh bien, selon cette voie, on marque en principe les différences radicales qui existent entre les deux religions, en particulier la négation des mystères de la Sainte Trinité, de l'incarnation, de la rédemption. Mais bâtie sur des textes de l'Écriture et les documents du magistère, cette théologie tient compte du mystère de Dieu et de sa providence et ne se presse pas pour situer la place de l'histoire dans l'islam, ne se presse pas pour situer la place de l'islam dans l'histoire du salut. Et donc peut-être ce qui nous paraît comme vis-à-vis des Juifs une schizophrénie ou une position illogique, eh bien pour eux, il n'y a pas d'illogisme, on ne se pose pas la question. L'islam a certainement une place dans l'histoire du salut, mais on ne cherche pas à la résoudre, tout comme les Juifs aujourd'hui ont une place dans l'histoire du salut, mais on ne sait pas bien laquelle. Alors ceci, c'est la position qui se dit être la position, du moins que les islamologues catholiques aujourd'hui pensent être la via media qui se base sur les textes de l'Écriture et les documents du magistère. Alors qu'en est-il avec cela du dialogue ? Eh bien, cette conception, je dirais, cette via media telle qu'elle vient d'être définie, et même ce que le père Anahuati appelait la voie ou le courant maximaliste, même s'il y a des divergences qui sont de taille, eh bien, elles sont en ligne directe la conséquence de Vatican II. Nous avons vu que le Concile, après un joli tableau de la foi, de la morale et du culte musulman, où l'on a évité de parler, évidemment, de ce qui est négatif, comme la répudiation, la polygamie, l'esclavage, la guerre sainte, le Concile invite chrétiens et musulmans à passer de l'affrontement au dialogue et à la collaboration. Et notre auteur, Rhys, continue son commentaire en disant « L'attitude de l'Église est très positive. Elle regarde l'aspect religieux de l'islam et souhaite, chez les chrétiens, un retournement des mentalités. Les incessantes invitations au dialogue, et alors ceci c'est lui qui le dit, les incessantes invitations au dialogue et à la collaboration avec les musulmans sont donc bien dans la ligne du Concile, ainsi que les rencontres entre chrétiens et musulmans qui n'ont cessé de se multiplier depuis 2 décennies. Ce dialogue s'est institutionnalisé sur la base de Nostra Aetate, et de fait, on peut voir, il y a, quand le pape reçoit des évêques venant des pays arabes en particulier, qu'il insiste beaucoup sur ce dialogue avec les musulmans. Je citerai, pour faire court peut-être maintenant, dans l'encyclique Redemptoris Missio en 1990, eh bien, le pape traite ex professo du dialogue et en donne la justification et le but. L'esprit, explique-t-il, se manifeste de façon particulière dans l'Église et dans ses membres, mais sa présence et son action sont universelles. C'est ça la base théologique de ce dialogue avec les autres religions. Elle se manifeste dans l'interrogation religieuse de l'homme, mais aussi dans les semences du Verbe présentes dans les peuples, les cultures et les religions. C'est pourquoi les rapports de l'Église avec les autres religions sont inspirés par un double respect. Respect pour l'homme dans sa recherche de la vérité et respect pour l'action de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint, dans l'homme. Ces dons de l'Esprit chez les hommes, dans les peuples et dans les religions, remplissent une fonction de préparation évangélique et sont donc en relation au Christ. Mais il revient, c'est un résumé de ce que dit le pape, hein, mais il revient à l'Église de les découvrir, de les promouvoir et de les recevoir par le dialogue. Donc ceci, c'est Jean-Paul II dans l'encyclique Redemptoris Missio, et on pourrait multiplier les citations de ce genre. Alors, le dialogue, eh bien, en réalité, en quoi consiste-t-il, ou bien quels sont ses fruits? Il est bien évident qu'il faut un certain dialogue, surtout si on veut convertir les musulmans, mais ce n'est pas le dialogue religieux, on ne leur demande pas de nous exposer ce qu'ils croient. Il faut savoir parler avec eux, certainement. Mais ce n'est pas le dialogue religieux tel que le Concile le promeut et le magistère actuel le promeut. Et à ce sujet, on pourrait dire que ce dialogue religieux, à proprement parler, est un dialogue de sourds. Car pour le musulman, le Coran vient du ciel. Et dans le Coran, tout est dit. Si un chrétien dit à un musulman quelque chose qui n'est pas dans le Coran, eh bien, le musulman ne le recevra normalement pas, car il mettra cela au chapitre de la falsification des Écritures. Voici la citation d'un musulman. C'était à Munich en 1981, lors d'une rencontre de musulmans germanophones. C'est un musulman de Munich, lors d'une rencontre de musulmans germanophones à Cologne en 1981. Il disait ceci. « En tant que musulmans, nous tirons du Coran notre position et notre conduite dans toutes les questions importantes, y compris le dialogue. Par son exemple, le prophète, il s'agit donc de Mahomet, nous a montré comment le mettre en pratique. C'est donc à ces indications du Coran et à cet exemple que nous nous tenons. Nous conduisons donc le dialogue avec les croyants d'autres religions et en particulier avec les chrétiens, selon les indications coraniques et les exemples de Mahomet. Or, nous pouvons constater qu'au temps de Mahomet, les relations entre les musulmans et les chrétiens ont été conditionnées par les rôles respectifs que chrétiens et musulmans jouaient à l'égard de l'autre communauté. À chaque communauté revenait un rôle très clair. Le rôle des chrétiens consistait à connaître et à reconnaître la mission prophétique de Mahomet, tandis que celui des musulmans consistait à rendre accessible l'islam aux chrétiens, comme aux autres hommes, et à les inviter à embrasser l'islam. Voilà comment un musulman conçoit le dialogue avec les catholiques, ou les chrétiens en général. Néanmoins, pour les tenants du dialogue, c'est une nécessité, car même si on ne sait pas à quoi il aboutira, c'est un des nouveaux dogmes de Vatican II. Alors je terminerai, parce que le temps passe, eh bien par une citation de Mgr Lefebvre qui est certainement très dure, mais sans doute juste. Toutes ces réunions avec les juifs, avec les protestants, avec les bouddhistes, avec les musulmans, donnent l'impression que l'on discute d'égal à égal. Bien sûr, il existe une certaine égalité, puisque ce sont des créatures comme nous, mais nous, nous possédons la vérité. La vérité est que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et que tout le monde doit lui être soumis. Il n'y a qu'un seul Dieu auquel nous devons nous soumettre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas le droit de diminuer cette vérité. Nous n'avons pas le droit, par exemple, de donner à un musulman l'impression que sa religion vaut la nôtre. Cela, c'est une trahison. Judas n'a pas fait pire. Mais pour terminer par une note plus encourageante, eh bien, je vous dirais que j'ai appris tout récemment qu'il y a eu, pour la vigile pascale à Nantes, le baptême de 4 musulmans adultes, précisément, qui vivent en France depuis quelques années. Donc cela pour dire que, même si le dialogue tel qu'il est conçu aujourd'hui est une fausse voie, cela ne veut pas dire qu'il soit impossible de prier pour la conversion des musulmans et de travailler, avec la grâce de Dieu, à ceci.